Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrián Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Le président Javier Milei est rentré en Argentine après un voyage d'une semaine en Israël, en Italie et au Vatican. À Rome, il a rencontré la première ministre italienne, Giorgia Meloni, et son homologue, Sergio Mattarella. Milei a également été reçu au Saint-Siège par son compatriote, le pape François, avec lequel il a tenu une réunion de plus d'une heure au cours de laquelle il a présenté son plan pour résoudre la crise socio-économique de l'Argentine. Selon des sources officielles, la rencontre avec François était très cordiale, même s'il n'a pas été confirmé que le pape se rendrait finalement dans son pays natal cette année, 10 ans après son départ pour le conclave de mars 2013 qu'il a désigné comme pape. Dans le cadre de sa tournée, Milei s'est également rendu en Israël, où il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président Isaac Herzog. Dans ce contexte, le chef d'État a annoncé le transfert de l'ambassade d'Argentine à Jérusalem. Selon les dernières données officielles, l'inflation en Argentine a dépassé 250% en glissement annuel en janvier. Ce taux provient du dernier rapport de l'INDEC, l'agence officielle de statistique de l'Argentine, qui indique que les prix ont augmenté de 20,6% le mois dernier. Le gouvernement assure que la tendance est à la baisse après 25,6% en décembre. Dans une interview, le président Javier Milei a déclaré que le pourcentage de janvier est un chiffre horrible si on le prend isolément. Mais il faut regarder où nous étions. Les incendies en grande partie maîtrisés au Chili, où la solidarité s'organise mais la vigilance demeure. Grâce à une météo plus clémente, notamment des vents moins forts, les pompiers ont pu maîtriser la plupart des feux qui ont dévasté le littoral du centre. Le président Gabriel Boric parle de la plus grande tragédie que le pays a dû affronter depuis le tremblement de terre de 2010. Un rapport de RFI.
Les images venues du Chili sont saisissantes. Des quartiers entiers réduits en cendres, des maisons à terre, des arbres calcinés sur des kilomètres et des kilomètres qui dévastent la côte dans le centre du pays. On déplore au moins 112 morts. Naïla de Rouané, vous êtes notre correspondante au Chili. Naïla, on semble assister ce matin à un début d'apaisement.
Oui, elle s'est calmée. Le gros des incendies a été maîtrisé. C'est grâce notamment à une météo plus clémente. Hier, le vent est considérablement retombé, ainsi que les températures. Il a fait moins chaud. Le taux d'humidité est également remonté. Tous ces éléments aident pour éviter la propagation des feux. Mais évidemment, la population et les secours restent extrêmement vigilants, car il y a toujours des foyers actifs. Sur les chaînes de télévision, ce matin, on voit encore plusieurs colonnes de fumée grise. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, le couvre-feu qui a été appliqué dans 4 des communes les plus affectées va être renouvelé ce soir afin de permettre toujours les évacuations, la circulation des secours, mais aussi pour éviter les pillages dans les quartiers qui sont évacués.
Cet incendie forestier qui a atteint ensuite la zone urbaine, c'est du jamais vu, Naïla, dans ce secteur.
Oui, d'ailleurs, Patricio Brito, commandant des sapeurs-pompiers de Viña del Mar, le dit lui-même.
Nous n'avions jamais eu un incendie d'une telle magnitude. Le secteur de Viña del Mar a un relief assez complexe. Il y a des secteurs industriels, il y a des ravines profondes avec plein de végétation, mais aussi des mini-décharges. Ça a été très compliqué pour nous, pompiers. Des maisons de 100 mètres carrés ont été brûlées.
Le président Gabriel Boric a même dit qu'il s'agit de la plus grande tragédie que le pays a dû affronter depuis le tremblement de terre de 2010. Des centaines de familles ont tout perdu, leurs affaires, leurs maisons ont complètement été dévorées par les flammes. Sur les images aériennes diffusées en boucle à la télévision chilienne, on voit qu'il ne reste que des ruines là où le brasier est passé. Les habitants disent que c'est comme si une bombe atomique avait explosé. D'autres ont été plus chanceux, comme Johan Saavedra et sa famille qui habitent à Viña del Mar et qui ont vu les flammes passer tout près de leur maison.
Ici, dans notre quartier Miraflores, à Viña del Mar, nous avons dû évacuer. L'incendie n'était qu'à 300 mètres de ce quartier résidentiel.
Johan est également urbaniste. Il explique que beaucoup des familles qui ont été affectées se trouvaient déjà dans une situation fragile avant l'incendie qui les a terrassées.
Les premiers quartiers à avoir été touchés, ce sont des habitations précaires qui se sont installées illégalement en périphérie de la ville et qui étaient très exposées sur ses versants avec des arbres sensibles au feu. Cette première ligne a été affectée, puis les flammes ont avancé jusqu'à des quartiers plus formels.
Et que sait-on de l'origine de ces incendies, Naïla ?
Eh bien, deux personnes ont été arrêtées, on l'a appris il y a quelques heures. Elles sont suspectées d'avoir provoqué le feu qui a ravagé le jardin botanique de Viña del Mar. Pour connaître leurs motifs et savoir si d'autres personnes sont impliquées, il faudra attendre les conclusions des enquêtes qui ont été lancées. Mais les autorités chiliennes sont quasi catégoriques. Elles parlent de feux allumés volontairement dans un but mal intentionné. Le président Gabriel Boric s'est exprimé à ce sujet hier.
Il est difficile d'imaginer qu'il puisse exister des personnes si misérables, cruelles et capables de causer tant de morts et de douleurs. Mais si ces personnes existent, nous allons les chercher, nous allons les trouver et elles devront affronter non seulement la condamnation de toute la société, mais également le poids de la loi.
La presse y revient largement, Marine de la Moissonnière. Ça va mieux donc, mais les dégâts matériels sont considérables et le bilan humain très lourd.
Oui, un bilan qui fait état de 131 morts pour l'instant, rappelle le journal chilien La Tercera, mais seulement 40 personnes identifiées, 6000 habitations détruites, plus de 1900 pompiers mobilisés pendant plus de 5 jours. Le Chili n'en a pas totalement fini avec les incendies puisque des foyers restent actifs dans certaines régions du pays.
Et le bilan des victimes, lui, est encore provisoire. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Les survivants, eux, ont commencé à déblayer, à reconstruire avec les moyens du bord, en attendant les aides promises par le président Boric. Notre correspondante, Naïla de Rouanet, a pu se rendre dans la zone la plus touchée par les incendies, à Viña del Mar. Sur place, la solidarité s'organise. Reportage.
Assise dans la benne d'une camionnette qui se dirige vers l'un des quartiers dévastés par les feux, Pilar va prêter main forte à des membres de sa famille qui ont tout perdu. À ses côtés se trouvent trois jeunes qu'elle vient tout juste de rencontrer.
Ils nous ont demandé si on pouvait les emmener jusqu'à la zone de l'incendie. Ils viennent d'autres communes, Valparaíso, Concon, pour nous aider. Beaucoup d'autres personnes apportent aussi de la nourriture, de l'eau.
Arrivés sur les lieux de l'incendie, tous descendent de la camionnette et se mettent au travail. Catalina vient de la commune de Valparaíso.
On a apporté nos pelles, des sacs, des masques, des gants, comme des petites fourmis, on va s'organiser.
Pleine d'empathie, la jeune femme sait ce par quoi passent ses familles, car elle a elle-même connu un incendie par le passé.
Ce n'est pas seulement le fait d'avoir perdu sa maison, il y a aussi le moment après l'incendie avec tous les troubles psychologiques. Ce n'est pas quelque chose qui se termine là maintenant, ça t'accompagne toute ta vie.
Son ami Jonathan l'accompagne.
L'idée, c'est de nettoyer rapidement l'endroit et de commencer à tout mettre en ordre, car les gens ont besoin de leur terrain pour y vivre.
Dans le centre de Viña del Mar, loin des collines affectées par les incendies, un collège a été transformé en centre de stockage où des tonnes de denrées arrivent pour ensuite être réparties aux familles sinistrées. De l'eau, des vêtements, de la nourriture, du papier toilette, des aliments pour les animaux, on reçoit de tout, dit Santiago qui avec d'autres bénévoles décharge un camion rempli de packs d'eau.
Plusieurs de mes camarades de collège ont perdu leur maison, certains n'ont même pas pu sauver leurs animaux de compagnie. J'ai toujours apporté mon aide aux autres et j'ai beaucoup d'empathie aussi face à la situation. Après, avec d'autres amis qui sont motivés, on ira dans les collines pour aider à reconstruire.
Un kilomètre plus loin, un autre collège sert cette fois-ci de centre d'hébergement d'urgence pour loger les familles et surtout les enfants. Aux abords de l'établissement, l'ONG Adra Chile a installé son gigantesque camion équipé d'une cuisine et d'une laverie.
On prépare des pâtes avec des pois et de la salade. Personne n'est à l'abri, ça peut nous arriver à tous.
Les volontaires doivent préparer 650 rations. Il y a beaucoup de demandes, dit Jorge Torre, opérateur du camion mobile.
La quantité de demandes augmente rien que sur cette unité, alors imaginez avec tout le reste des personnes affectées. Mais au moins on apporte notre grain de sable et ici la nourriture, les légumes, tout est frais.
À quelques mètres du camion, dans la rue, un petit groupe de 10 clowns se prépare et se maquille. Ils se sont réunis de manière spontanée pour aller présenter un spectacle aux enfants du centre d'hébergement d'urgence. Depuis le début des incendies, j'aide à ramasser les débris à l'aide d'une pelle, dit ce clown qui se présente sous le nom de Chaparro.
Aujourd'hui, j'ai mis mon déguisement de clown pour donner un peu de joie à toutes les familles et les enfants. C'est important de leur apporter une petite goutte de bonheur et d'amour. L'idée, c'est également que les enfants oublient quelques instants la tragédie qui les a frappés.
Les habitants victimes de la catastrophe espèrent que cet élan de solidarité va se maintenir, car face à l'ampleur des dégâts, plusieurs quartiers ravagés n'ont toujours pas reçu d'aide, ni de la mairie, ni du gouvernement régional. Certains le déplorent, d'autres sont plus indulgents, car ils savent que ce sont des milliers de familles qui sont aujourd'hui dans la détresse.
Reportage de notre correspondante au Chili, on vient de l'entendre, donc l'heure est au nettoyage. Mais certains se demandent déjà comment faire pour que de tels incendies ne se reproduisent pas, Marine de la Moissonnière.
Oui, les feux de forêt ne sont pas une fatalité, titre El Mostrador. C'est même tout le contraire, insiste Jorge Morales Gamboni, membre de l'Observatoire des politiques publiques et du territoire de l'Université de Santiago, à qui le journal a ouvert ses colonnes dans une longue tribune. Le professeur rappelle qu'il faut s'occuper des forêts en hiver. Cela évite de passer l'été à les éteindre et à nous désoler de leurs conséquences catastrophiques, écrit-il, en demandant à l'État d'intervenir, notamment pour que les zones d'interface urbain-rurale soient propres. On ne doit pas y trouver de poubelles, de déchets dangereux comme des pneus ou tout simplement de mauvaises herbes, détaille-t-il. L'universitaire réclame également un changement de stratégie au sein de la CONAF, l'organisme public qui gère les forêts. Il doit notamment installer des pare-feux, cet organisme, y compris chez les particuliers, et veiller à leur entretien. Et puis chaque maison, chaque entreprise, garage, hangar doit disposer d'un système anti-incendie, un point d'eau, des tuyaux ou bien encore des produits chimiques retardateurs de flammes. Enfin, dernier point de cette feuille de route, l'usage de l'intelligence artificielle pour prévoir où vont se déclencher les incendies. Cela permettrait d'envoyer des policiers mener des rondes dissuasives, estime l'universitaire.
Plusieurs milliers de Chiliens ont vu leur maison détruite dans la région de Valparaíso. Ils tentent maintenant de ramasser les débris dans un paysage calciné entièrement gris, recouvert de cendres. Esteban fait partie de ceux qui essaient de remettre un peu d'ordre et il est toujours complètement sous le choc.
Tout a été très rapide. En l'espace de 5 minutes, la fumée nous empêchait de voir. C'était totalement obscur. Et puis vous voyez en face, les versants des collines sont très proches. Donc ça a été facile pour le feu de se propager, surtout avec le vent fort. Ce jour-là, toutes les conditions météorologiques étaient réunies pour attiser les flammes. Ça a été très difficile. Les gens couraient, criaient, ils essayaient de sauver leurs animaux de compagnie, d'aider les personnes plus âgées. Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu de l'aide de la part du gouvernement. Mais l'ampleur de la catastrophe fait que ça doit être difficile d'être partout. Et puis, les routes sont étroites. C'est compliqué pour les camions et les gros véhicules d'accéder à ce secteur. Mais ici, nous sommes voisins depuis plusieurs années, donc on se connaît et on se serre les coudes en ce moment. On travaille en équipe pour aller de l'avant et sortir de tout cela plus fort.
Toujours au Chili, mort de l'ancien président de droite, Sebastián Piñera, dans un accident d'hélicoptère que lui-même conduisait.
Direction du Chili à présent, où les manchettes des journaux sont imprimées en partie en noir, en guise de deuil après la mort de l'ancien président Sebastián Piñera hier dans un accident d'hélicoptère à Rimilipold.
Oui, toute la presse rend hommage au premier président de droite élu après la fin de la dictature, un homme qui a assuré la continuité des institutions démocratiques, écrit El Mercurio. Sa première élection en 2010 a ouvert un espace pour le retour de la droite au pouvoir, estime La Tercera. Mais cette fois-ci, une droite démocratique qui s'est partagée le pouvoir avec la gauche, ce qui a clairement contribué à consolider la normalité démocratique. Ils sont fichés d'avoir été l'homme le plus riche du pays. Sa véritable ambition, c'était de conquérir la moneda, le palais présidentiel, ce qu'il a réussi à faire deux fois, écrit La Tercera.
Équateur, le traumatisme un mois après l'attaque de TC Télévision. Cet épisode marque non seulement l'histoire de la chaîne, mais également celle du pays et de tous ceux qui l'ont vécu, admet Manuel Ortega, le gérant administratif de la chaîne, dans un reportage de RFI.
C'était il y a un mois exactement. En Équateur, des hommes armés, cagoulés, avait pris d'assaut une chaîne de télévision locale à Guayaquil en plein direct et alors que des gangs semaient le chaos dans toute la région et toutes les prisons du pays. Un mois plus tard, notre correspondant Éric Sanson a pu se rendre dans les locaux de la chaîne TC Télévision. Il a rencontré des équipes encore sous le choc. Reportage.
La transmission en direct n'a duré que 15 minutes, mais 15 minutes qui ont duré une éternité. Pour tous les techniciens, personnel administratif et journalistes retenus en otage d'abord, mais aussi pour la population qui regardait ces images en direct avec un mélange de peur, d'horreur et de fascination. Un moment d'histoire en direct, comme le reconnaît Manuel Ortega, gérant administratif de la chaîne.
On sait que cette transmission a provoqué un choc violent. On a été 15 minutes en direct et personne n'a pu couper l'antenne parce que les techniciens qui auraient pu mettre du noir à l'antenne ou simplement retirer un câble pour y mettre fin étaient soit retenus en otage, soit cachés, ou alors ils avaient fui à l'extérieur.
Les locaux de la chaîne portent toujours les marques de la tragédie. Portes cassées, traces de balles un peu partout sur les murs et les portes et une sécurité renforcée pour essayer de calmer le personnel. Manuel Ortega.
La plupart d'entre nous, on a retrouvé le calme, mais c'est un événement qui restera dans nos mémoires pour tout ce qui s'est passé. Moi, je travaille dans cette entreprise depuis plus de 30 ans. Cet épisode marque non seulement l'histoire de la chaîne, mais également celle du pays et de tous ceux qui l'ont vécu, en particulier ceux qui ont été otages. Moi et beaucoup d'autres, on a réussi à se cacher dans un autre immeuble, mais les autres ont vu la mort en face.
Et beaucoup sont encore marqués. C'est le cas de José Luis Calderón, ce journaliste que les assaillants ont forcé à supplier la police de ne pas intervenir, allant jusqu'à placer une cartouche de dynamite dans la poche de sa veste. Ayant conservé son calme pendant la prise d'otage, il sent aujourd'hui le contre-choc.
Ces derniers temps, je n'arrive pas à dormir. Cette nuit, par exemple, j'avais l'impression que quelqu'un voulait rentrer chez moi. Ma famille m'a proposé de partir, ils m'ont même offert un endroit où loger. Mais il n'y a rien de tel que sa maison. Cette nuit, j'ai eu peur qu'on rentre chez moi. Je n'ai pas dormi, je voyais des fantômes.
José Luis Calderón me reçoit chez lui, mais demande à ce que les photos et les prises de vue ne montrent pas l'extérieur de son appartement. Ses voisins lui ont demandé d'être discret, car ils craignent de possibles représailles qui pourraient les affecter. Pas vraiment de quoi le tranquilliser.
J'ai peur pour ma vie. Ce n'est peut-être pas cohérent. Je sais que j'ai un problème, mais je vais devoir le résoudre tout seul, car cela n'intéresse que moi.
Pour un journaliste plus habitué à être derrière les caméras que devant, la vie n'est plus comme avant.
Dans la rue, il y a des gens qui m'observent. D'autres s'approchent et disent que je suis un héros, qu'ils ont apprécié mon comportement pendant la prise d'otage, mon calme, mon attitude. Je me sens bizarre.
Bizarre au point de ne plus vraiment savoir de quoi demain sera fait.
Non, je n'ai pas encore décidé de mon avenir, mais je n'exclus pas de mettre fin à ma collaboration avec la chaîne. J'en serais désolé car TC Télévision est ma maison depuis longtemps. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire de ma vie, mais je discute avec des amis, je leur demande leur avis pour voir ce que je vais décider.
Si bien la prise d'otage s'est terminée sans victime, ses conséquences se feront sentir longtemps. Le procureur antimafia en charge du dossier a d'ailleurs été assassiné il y a quelques semaines.
Au Brésil, dans la zone ouest de Rio, 5000 caïmans nagent dans les eaux polluées de la lagune de Jacarepaguá. Les eaux usées de dizaines de milliers d'habitants s'y déversent et elles menacent les reptiles. C'est la conséquence d'une urbanisation accélérée au début des années 2000 avec la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. Un rapport de RFI.
On part à présent dans la tentaculaire Rio, où la pollution menace toute une biodiversité, plus précisément dans la lagune de Jacarepaguá. Les poissons s'y font rares et les reptiles sont aussi menacés. 5000 caïmans à museau large y vivent. Leur habitat est menacé par les eaux usées qui s'y déversent, conséquence d'une urbanisation accélérée depuis les méga-événements qu'a accueilli la ville au début des années 2000, avec la Coupe du Monde ou encore les Jeux Olympiques. Reportage sur place de Sarah Cozzolino.
Pour capturer les crocodiles, les scientifiques imitent le cri du mâle. Ricardo Freitas et son coéquipier Felipe Dutra profitent de la nuit pour pouvoir capturer les caïmans à museau large de Jacarepaguá. Après avoir repéré leurs yeux brillants à l'aide d'une lampe torche, ils s'approchent doucement de l'animal et l'attrapent à l'aide d'une corde au bout d'une perche. Ricardo Freitas passe un scotch isolant noir autour de son museau et de ses pattes pour l'immobiliser et l'examiner en toute sécurité. Il commence par le mesurer, le peser, puis prélève quelques écailles dorsales.
Tous les animaux ont les écailles coupées différemment. Ces combinaisons différentes jouent le rôle d'empreintes digitales. On retrouve chaque animal qu'on a capturé grâce aux cicatrices des écailles.
Avec son ONG Instituto Jacaré, il collecte des informations sur les caïmans de la région depuis plus de 25 ans. Il a constaté que l'expansion urbaine et la pollution des lagunes ont eu un impact sur les crocodiles. Le biologiste a notamment retrouvé des traces d'intoxication au mercure dans ses analyses. La diminution de femelles l'inquiète également. 85% des espèces capturées sont des mâles.
Les jacarés, ils ont une dépendance.
La détermination du sexe des crocodiles dépend de la température d'incubation. Une température plus élevée provoque des naissances de crocodiles mâles. Mais en plus de la température, il faut aussi prendre en compte les matériaux en décomposition et l'excès de déchets toxiques qui empêchent la naissance de nouveaux caïmans.
Então, muitos ninhos sequer nascem.
Malgré l'obscurité, on voit que l'eau qui nous entoure est verdâtre, l'odeur est pestilentielle. Luis Claudio da Silva habite le quartier voisin de la Villa Autódromo où passent des canaux pollués qui se déversent dans la lagune.
La seule chose qui a été faite est un système de retenue d'objets physiques. Des grillages ont été installés pour empêcher de laisser passer des bouteilles en plastique, des pneus, des matelas. Mais les bactéries, les eaux usées, tout cela continue de passer librement.
La pollution a un impact sur toute la biodiversité de la lagune. Francisco Costa vit de la pêche dans la région depuis plus de 40 ans, mais aujourd'hui, il ne peut plus rester dans cette zone.
La quantité de poissons s'est effondrée de 95% et les 5% restants survivent tant bien que mal. Ici, je pêchais des crevettes, du brochet, du tilapia, du mulet. Il ne reste plus que le tilapia et en petite quantité.
Étudier les caïmans permet d'en apprendre sur tous ceux qui vivent aux abords de cette lagune, selon Ricardo Freitas.
À partir du moment où vous voyez qu'un animal qui a un tel potentiel de résistance et de résilience est affecté de cette façon par la pollution et par l'expansion urbaine, vous pouvez imaginer comment nous pouvons en subir les conséquences alors que nous sommes bien en dessous sur une échelle de résistance environnementale. Donc nous avons déjà dépassé le stade de la réflexion, il faut agir avec urgence. Parce que les conséquences sont incalculables.
Les conséquences disso, elles sont complètement immensurables.
Le scientifique regrette que les pouvoirs publics ne mesurent pas l'ampleur des dégâts environnementaux dans le quartier. À Jacarepaguá, qui signifie vallée des caïmans en langue indigène Tupi-Guarani, les crocodiles ne sont plus chez eux.
Toujours à Rio, au Brésil, février, c'est le mois du carnaval. La correspondante de Radio France Internationale a rencontré des jeunes, pour la plupart issus des quartiers pauvres ou des favelas, à l'école de Pimpolhos de Grande Rio.
Je vous propose de découvrir les derniers préparatifs dans les écoles de samba, dernière répétition avant le carnaval de Rio. Les plus jeunes seront aussi de la fête, comme on peut l'entendre dans ce reportage de notre correspondante. Sarah Cozzolino a suivi des enfants, ils ont entre 5 et 18 ans, dans l'école de Pimpolhos de Grande Rio.
Nous sommes dans la banlieue de Rio de Janeiro, à Duque de Caxias. Dans ce grand hangar, la quadra de l'école de Pimpolhos, les enfants se préparent pour la répétition générale. À 16 ans, Victoria est la porte-drapeau qui ouvre le défilé.
J'ai commencé à l'âge de 5 ans et depuis petite, je porte le drapeau de l'école. C'est un rôle extrêmement important. Depuis le début, j'ai toujours senti une grande responsabilité et j'en suis très fière. J'ai envie de raconter et transmettre cette trajectoire unique.
Elle porte un corset vert et une jupe rouge aux couleurs de l'école de samba. Quelques rangées plus loin, on retrouve sa sœur, Andresa, 11 ans. Elle fréquente l'école depuis qu'elle est née.
Grandir au sein d'une école de samba, c'est comme Pimpoyos. C'est une expérience merveilleuse. Moi, je suis Miss Sympathie. C'est un peu comme la seconde princesse du défilé.
Tous les mardis soirs de l'année, les deux sœurs passent leur après-midi et soirée dans l'école de samba. Une vie différente de leurs camarades de classe qui ne comprennent pas leur passion. Mais Jesmar, leur mère, fait désormais aussi partie de l'école et défend ce mode de vie.
Il faut en finir avec les préjugés sur les personnes qui fréquentent les écoles de samba. On entend que les danseuses ne sont bonnes à rien. Il y a encore beaucoup de discrimination. Mais non, aujourd'hui, ma petite est danseuse, princesse de la batterie, et elle a appris énormément de choses ici. Elle a eu beaucoup d'opportunités.
Pimpolios exige une certaine discipline de ses élèves, comme par exemple le fait de ne pas redoubler à l'école. Micro à la main, David est l'un des chanteurs. C'est ici qu'il a connu la plupart de ses amis, mais pas seulement.
C'est ici que j'ai appris à respecter les plus vieux. C'est une école de samba, mais en fait, c'est un peu une école de la vie. J'ai beaucoup appris ici. Ça a fait mon éducation et je suis très reconnaissant envers l'école.
Contrairement aux écoles de samba pour adultes, les écoles pour enfants, les mirim, comme on les appelle au Brésil, ne sont pas en compétition les unes avec les autres. L'objectif est plutôt d'apprendre aux enfants à être des artistes. Luna Leal est la professeure de danse afro.
Le carnaval est un ensemble de langages artistiques qui vont de l'écriture à la danse, aux arts visuels, en passant par la musique, dont le résultat est l'apothéose du carnaval. Les écoles de samba sont un lieu de vie avec des événements tout au long de l'année.
Cette année, les enfants ont par exemple réalisé un travail sur les matriarches de la samba. Souvent restées dans l'ombre des hommes, elles sont mises à l'honneur à travers l'hymne de l'école.
C'est la valorisation de la culture noire carioca de Rio. Nous avons déjà parlé plusieurs fois de ce thème. Et cette fois-ci, nous parlons des matriarches, ces femmes mères fondamentales et fondatrices de la culture noire brésilienne.
Aujourd'hui encore, les mères ont un rôle fondamental dans les écoles de samba. Maria y a trouvé un vrai groupe d'entraide.
Je suis arrivée ici parce que mon aîné avait de graves troubles de l'anxiété. L'école l'a accueilli à bras ouverts et il s'entend bien avec tout le monde. Il a préféré le secteur de la batterie et des percussions, et aujourd'hui il va beaucoup mieux.
Selon cette mère, la solidarité a sauvé son fils, alors que dans la favela où elle habite, beaucoup de jeunes garçons sont livrés à eux-mêmes dans les rues.